The wind. The wind's 120 knots to the west. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X.
Bon vendredi sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans le nouveau rendez-vous radiophonique de Radio X Files. Vous avez été habitué à une quotidienne, à une édition hebdomadaire qui est maintenant un petit peu plus tôt dès 18h. Et ce, on vous accompagne jusqu'à 19h. Très rare que je fais ça d'entrée de jeu, mais pour tout avis de circulation, tout incident sur la route, c'est une soirée particulière, du moins dans la grande région de Québec. Alors, je vous invite à m'écrire au 418-670-9098. On m'a mentionné d'ailleurs que sur la 20 direction est pour le Bas-Saint-Laurent, passer la sortie de Lévis-Centreville, plus à la hauteur de Monseigneur-Bourget, on aurait un accident. Donc, c'est extrêmement glissant sur les routes. Soyez prudents si vous êtes en déplacement présent. Pour lancer la thématique de ce soir, voici un extrait audio qui lance le thème de l'émission.
This is where I ask you a wonderful question everyone's going to want to know. Does this mean you can find the Loch Ness Monster?
Do you know what people
DNA Loch Ness, can you find it?
People would try. Annoyingly, people came from New Zealand to try that.
Oh, okay.
And they took about 500 eDNAs. All they needed to find is one bit of unidentified reptile DNA. Yeah. It could have had a story, but we've been asked to try and find Yeti and Bigfoot all sorts. It comes up.
Et il est là, la technologie, ça a été à une seconde près. Christian Page, salut!
Oui!
Jusqu'à la toute dernière minute, j'avais mon Comrex d'occupé, mais là, j'étais en train de taper sur Messenger pour savoir si tu allais être avec nous. J'espère que tu as passé une belle semaine, mon cher Christian.
Oui, ça va bien.
J'ai eu chaud dans les dernières secondes.
Comme toi, j'appuyais sur le bouton. Est-ce qu'éventuellement, la connexion va se faire?
Et elle est faite de l'autre côté de l'autoroute en direct de Saint-Jean. Je te remercie d'être là. On vient d'entendre un extrait et je sais que le premier sujet de notre thématique de ce soir concerne le monstre du Loch Ness.
Oui, et nos interlocuteurs qu'on entendait dans notre extrait parlaient avec un très fort accent britannique.
Oui.
Peut-être certains ont-ils reconnu que c'était la voix du prince William. C'était il y a quelques jours alors qu'il visitait un laboratoire qui s'appelle Nature Matrix, un laboratoire qui fait de la recherche dans le domaine de l'ADN. On était en train de discuter sur l'ADN environnemental. Pourquoi on dit environnemental? Parce qu'il faut savoir que toute espèce vivante contamine son lieu, son lieu de vie, que ce soit par des excréments, des extraits de morceaux de peau, de l'urine, tout le reste.
On laisse des déchets biologiques un peu partout.
Voilà. Et on disait qu'à partir de l'ADN environnemental, la scientifique expliquait au prince William qu'en étudiant un milieu, quel qu'il soit, en étudiant l'ADN qu'on retrouve dans ce milieu-là, il est possible de déterminer quelles sont les espèces qui occupent l'espace. Et là, on entend, c'était notre extrait, on entend le prince William lui poser la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver le monstre du Loch Ness?
Le mythique. Bien sûr,
et pour un Britannique, le monstre du Loch Ness, c'est quand même la cour juste à côté, là, l'Écosse.
Oui.
Et on entend, bien sûr, les caméramans, les gens qui accompagnent le prince William, on entend les rires, mais la question est tout à fait légitime. Et ce que répond la scientifique, c'est que tout ça a déjà été fait, elle mentionne un scientifique de la Nouvelle-Zélande qui a mené cette recherche-là et qui avait pris plus de 500 prélèvements d'ADN et qu'on n'avait pas trouvé le monstre du Loch Ness, à tout le moins aucune espèce méconnue ou inconnue de la science. Et c'est intéressant parce que ça lance notre sujet d'aujourd'hui, parce que notre thématique aujourd'hui, c'est théorie du complot un peu, mystère cryptozoologie surnaturelle. Et ma première nouvelle était justement par rapport à ce scientifique néo-zélandais qui s'appelle Neil Gemmell, qui a annoncé il y a quelques jours qu'il allait refaire une nouvelle recherche au Loch Ness. Pourquoi faire une nouvelle recherche alors qu'on avait un peu l'impression que le dossier était clos?
Et je te réponds en sous-question aussi, Christian, est-ce que ça implique un sous-marin de fortune? Non, OK.
Non, pas pour l'instant.
Non, OK.
et pour le Loch Ness, ce qu'il avait fait à l'époque, et en même temps, ça revient à un discours qu'on tient souvent ici à Radio X-Files, lorsqu'on parle des dossiers étranges et mystérieux, cette espèce de résistance que les gens ont à accepter une vérité qui n'est pas celle qu'ils voudraient. Mm-hmm. Hein, cette fuite en avant. Hein, au début des années 70, on avait la chanteuse country Renée Martel qui chantait « J'ai un amour qui ne veut pas mourir ». Mais je pense qu'ici, on a un monstre qui ne veut pas mourir. Il faut dire qu'il y a plusieurs, il y a des intérêts. Le monstre du Loch Ness, ce n'est pas simplement une question de est-ce que le monstre existe ou non. C'est quand même une industrie. Puis je le sais, pour y être allé à quelques reprises au Loch Ness, hein, je l'ai pu voir cette industrie florissante autour du Loch Ness. Parce que, je ne vais pas être méchant, là, mais tu sais, l'Écosse, ce n'est pas la destination voyage numéro un. L'Écosse, bon, une fois qu'on t'a visité les grands lieux, Édimbourg et tout le reste,
ouais.
Si on commence à quitter, je ne sais pas, je sais que toi, t'as beaucoup voyagé aussi. Je ne sais pas si tu es allé dans le Loch Ness ou les Highlands, comme on appelle.
Je suis allé dans les Highlands, mais pas jusqu'au Loch Ness, non.
C'est des beaux paysages, mais en dehors de ça, on ne peut pas dire que tu sais, c'est pas la foire aux destinations touristiques.
Beaucoup
là.
De verdure et peu de choses à voir, c'est vrai.
Voilà, donc si tu veux te replonger dans la nature, les grandes randonnées, dans des lieux qui sont tout à fait bucoliques, parfois aussi des vieux châteaux en ruine hein,
ouais.
sur des îles. J'ai en mémoire des petites îles où il y a une île au milieu du lac et un château dessus. Là. C'est très magique un peu. Hein. On a l'impression de sentir à chaque détour de la route le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde.
Effectivement.
Mais en réalité, c'est pas une destination voyage particulièrement plaisante dans la mesure où tu as des attraits touristiques à chaque coin de rue. Là. C'est pas tout à fait ça qui se passe. Et l'industrie touristique autour du Loch Ness, ben, elle est florissante à cause de la légende du monstre du Loch Ness. Hein, la capitale du monstre du Loch Ness, c'est une toute petite ville qui s'appelle Drumnadrochit. Ou Drumnadrochit, hein, comme eux l'appellent. Et cette petite ville-là, écoute, ça... Je me rappelle pas le nombre d'habitants, mais il y a comme 250 habitants, mais il y a 10 hôtels, 8 cafés, 12 restaurants, 2 musées, tu sais, et tout ça pour entretenir l'histoire du monstre du Loch Ness. L'industrie du monstre du Loch Ness, dépendamment des régions, mais dans le cas de cette petite localité de Drumnadrochit, on parle de retombées économiques qui tournent autour de 50 millions de dollars. Ici, on prend toute la pointe du Loch Ness, de Drumnadrochit à Inverness, qui est une oui. ville importante, et qui vit aussi au rythme un peu de ce monstre du Loch Ness, ou à tout le moins qui tire le fruit un peu du monstre du Loch Ness. On parle d'une industrie de quelque chose comme 200 millions de dollars par année. C'est beaucoup de sous. Donc, quelqu'un qui arrive avec ses gros sabots puis vient dire « Oh, il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness », Ça déplaît à l'industrie touristique locale.
C'est ce qui les fait respirer, en fait.
Voilà, bien sûr. Donc, on essaie de se raccrocher à toutes sortes de choses pour dire, ben, peut-être que les scientifiques se sont trompés, peut-être que c'est faux, etc. On comprend qu'eux ont un intérêt financier à maintenir en vie le monstre du Loch Ness. On ne veut pas demain matin... Moi, j'ai chez moi là, mon petit toutou du monstre du Loch Ness avec son béret. Là,
avec
là.
Ton béret
bon,
en plus!
Avec un béret écossais. Là, bon, puis il y en a partout. Là, tu rentres dans toutes les boutiques, puis bien sûr, ils ont tous le petit toutou monstre du Loch Ness. On ne veut pas fermer l'industrie. Là, bon, et on le comprend. Mais la science, malheureusement, n'a pas à se préoccuper de ça. La science, elle est malheureusement très froide par rapport à tout ce questionnement, puis elle est insensible à l'industrie touristique. La science, c'est la science. Donc, ce qui s'était produit à l'époque, je rappelle un peu les faits. On est en 2018, il y a ce professeur Neil Gemmell, qui est le directeur du département de recherche en génétique de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande. Et il est respecté à travers le monde, notamment pour ses recherches et des techniques qu'il utilise pour faire de l'ADN environnemental. Donc, il a peaufiné des mécanismes de recherche concernant la recherche de l'ADN environnemental. Et on comprend que dans un milieu aqueux ou liquide comme un lac, c'est encore plus facile et plus évident de pouvoir récolter des échantillons d'ADN de la faune locale parce que, évidemment, très souvent, ces déchets sont flottants, ils sont en suspension dans le liquide que tu récupères. Donc, en 2018, Neil Gemmell se rend dans la Loch Ness et il va prendre 500 échantillons d'eau, mais 250 principalement dans la baie d'Urquhart, là où on voit le plus souvent le monstre. C'est là que se trouve d'ailleurs la baie d'Urquhart, elle est là où se trouve justement cette petite ville de Drumnadrochit. Il y a un vieux château en ruine. Dès qu'on regarde des images, si on fait une recherche sur les médias, dans les moteurs de recherche, et vous frappez monstre du Loch Ness, parmi les premières photos que vous allez voir apparaître sur les lieux, c'est ce vieux château en ruine, le château d'Urquhart. La ville de Drumnadrochit est juste à côté. Donc, il a pris 250 échantillons d'eau à cet endroit très précis. Et en 2019, il a fait un point de presse où il a révélé donc les résultats des analyses. Et ces résultats ont été surprenants à plusieurs niveaux. D'abord, certains avaient évoqué l'idée que le monstre du Loch Ness, s'il n'était pas un monstre, il pouvait peut-être être des esturgeons de la Baltique. Moi-même, d'ailleurs, j'étais plutôt favorable à cette hypothèse. L'idée d'esturgeons de la Baltique qui remontaient à travers le canal calédonien jusque dans le Loch Ness pour aller frayer. Or, il faut savoir que dans le Loch Ness, la plus grosse variété de poissons est une variété de saumon qui fait à peu près 1 mètre de long. Or, les esturgeons de la Baltique peuvent faire 3 mètres, même on a déjà vu des esturgeons atteindre 4 mètres de long.
OK, wow.
Donc, si toi, tu es un pêcheur ou un riverain, tu connais bien la faune du Loch Ness, tu es dans ta barque, tu es là, tu es en train de pêcher, tu sais que les poissons les plus gros ont à peu près 1 mètre de long, et tout à coup, tu vois une espèce de dos crénelé qui arrive aux côtés de ta barque, qui fait 2 mètres, 2 mètres 50, bien évidemment, tu vas dire, il y a un monstre, hein? J'ai vu un monstre dans le lac. Bon, et donc l'hypothèse la plus vraisemblable était cette idée des esturgeons de la Baltique, qui avait une hypothèse qui avait été développée par, il y a deux musées du monstre du Loch Ness à Drumnadrochit, et l'un d'entre eux est dirigé par un type qui s'appelle Adrian Shine. C'est un biologiste marin, mais autodidacte.
Hein? On dirait que tu as mis des guillemets. Hein?
Oui, c'est ça. C'est un autodidacte. Hein? Okay. Mais c'est un individu très sérieux. Là. Et il a consacré sa vie à étudier le monstre du Loch Ness. Pas essentiellement le monstre du Loch Ness, mais le monstre du Loch Ness et la faune du Loch Ness en général. C'est un individu qui connaît le lac comme le fond de sa poche. C'est un individu très sympathique. Quand je suis allé visiter le musée, j'ai voulu m'entretenir avec lui. Et puis, un peu bizarre, hein, il est bizarre. Et là, il me dit, je le croise, hein, parce que c'est lui qui dirige le musée. Hein, il est un peu le conseiller du musée, tout ça. Fait que je dis, Adrien Chêne, j'aimerais est-ce qu'on pourrait discuter quelques minutes. Puis là, il me regarde, puis il me dit, si tu me payes le lunch.
Oh boy, OK. Il veut rien faire pour rien, là.
Non, mais tu sais, un peu... Mais c'était sur un ton amusé, un peu. Tu sais, si tu me payes le lunch, parce qu'on était près de l'heure du dîner. Fait que finalement, on est allé manger juste à côté, il y a un petit restaurant, donc on est allé au restaurant, donc j'ai payé le lunch à Adrian Shine, et là, on s'est entretenu sur le monstre du Loch Ness, et c'est ce Adrian Shine qui avait introduit l'hypothèse de l'esturgeon de la Baltique, une hypothèse qui faisait tout à fait sens. Et c'était une des hypothèses que je défendais, cette hypothèse des esturgeons. Et puis, bon, il y avait d'autres personnes avaient évoqué comme possibilité des requins qui auraient pu remonter jusque dans le Loch Ness, ce qui était un peu surprenant parce que les requins ne vivent pas en eau douce. Or, le Loch Ness, c'est de l'eau douce. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est le plus gros en mètres cubes. Le Loch Ness contient plus d'eau potable, en fait, de l'eau douce, que tous les lacs du Royaume-Uni réunis.
OK, c'est vraiment concentré là.
Tu comprends, le Loch Ness, c'est un énorme plan d'eau. Et donc, certains disaient peut-être des requins. Mais bon, pour ce qui est des requins, il faut quand même savoir que dans la mer du Nord, on a des requins du Groenland, mais les requins du Groenland ne vivent pas en eau douce. Et parmi les seuls requins qu'on sait être capables de s'adapter à l'eau douce, ce sont les bull sharks, les requins taureaux. Mais il faut savoir que les bull sharks sont excessivement agressifs. On les retrouve plutôt dans des eaux chaudes. On les retrouve, par exemple, dans la région de la Nouvelle-Orléans ou sur les côtes de la Floride, tout ça, où ils vont remonter dans des canaux, là, un peu à l'intérieur des terres. Okay. Ils peuvent s'adapter pendant un certain temps à de l'eau douce avant de regagner l'eau de mer. Mais ce sont des requins qui sont pas très gros, excessivement agressifs. L'idée que des... qu'on aurait des requins, par exemple, du Groenland, qui pourraient s'adapter à de l'eau qui soit de l'eau douce, c'est peu vraisemblable. Et l'idée de requins, des bull sharks, dans de l'eau douce au Loch Ness, c'est pas très vraisemblable. Mais certains avaient évoqué cette hypothèse-là, et d'autres avaient évoqué aussi l'hypothèse de peut-être des cétacés de type dauphin qui auraient pu remonter dans le Loch Ness ou des marsouins. Mais là encore, l'idée que ces animaux puissent vivre dans de l'eau douce, c'est pas très vraisemblable. Et quoi qu'il en soit, malgré que ces hypothèses aient été évoquées, certaines n'étaient pas prises très au sérieux, mais quand même, elles avaient été évoquées. Lorsque Neil Gemmell a fait ses études en 2018, donc les échantillons en 2018, la conclusion communiquée en 2019, il a surpris beaucoup de gens en disant, ben voilà, on n'a trouvé aucune trace d'ADN qui supporte l'hypothèse des esturgeons de la Baltique. Il y a aucun, on n'a pas trouvé d'ADN d'esturgeon dans le Loch Ness. Donc ça, cette hypothèse, qui était même mon hypothèse favorite, venait soudainement de s'écrouler comme un château de cartes. Et il a ajouté, les hypothèses un peu plus fantaisistes de requins ou des cétacés de type marsouin ou dauphin dans le Loch Ness, ça aussi, c'est à rejeter. Neil Gemmell dit également qu'ils n'ont pas trouvé... il a trouvé toutes sortes d'ADN assez étranges. Hein. Par exemple, il a trouvé de l'ADN de cerfs, hein, parce que parfois des cerfs vont aller dans le Loch Ness pour traverser d'une rive à l'autre ou se baigner, hein, entre guillemets, sur les bords du Loch Ness. Il a même également trouvé de l'ADN humain hein, dans les prélèvements, parce que, qui est probablement dû à des déchets qui sont rejetés dans le Loch Ness. Mais tout ça pour dire qu'il n'a pas trouvé d'ADN d'un animal inconnu hein, qui supporterait l'hypothèse d'un dinosaure ou quelque chose du genre, et ni non plus d'ADN d'une créature qu'on pourrait s'attendre. Tu sais, est-ce que ça peut être un crocodile ou quelque chose de ça, un saurien? On n'a rien trouvé de ce genre-là. En revanche, Neil Gemmell a été surpris par la quantité d'ADN d'anguilles. Il y a donc de très fortes populations d'anguilles dans le Loch Ness. Plus que l'on croyait. On savait qu'il y avait des anguilles dans le Loch Ness. Les pêcheurs, les riverains étaient habitués à en prendre. Donc, on savait qu'il y avait de fortes populations d'anguilles, mais pas autant que l'a présenté Neil Gemmell. Il dit il y a énormément d'anguilles dans le Loch Ness. Et l'hypothèse, donc, certains disent c'est peut-être une anguille géante. Le monstre du Loch Ness est peut-être finalement une anguille géante. Ça aussi, c'est une hypothèse qu'il n'a pas vraiment retenue. On ne peut pas... Dans toute espèce animale, il est possible qu'il y ait des individus qui soient atteints de gigantisme. Mais l'idée qu'on aurait, on aurait une population d'anguilles géantes dans le Loch Ness, ça ne fait pas très sérieux.
Et ça revient à ce que tu as déjà mentionné aussi. Si le monstre du Loch Ness existe, il faut nécessairement qu'il soit capable de se reproduire pour assurer sa survie.
Ouais. Et même si on avait un individu qui est atteint de gigantisme, il faudrait s'assurer que dans ses rejetons, il y ait également cet ADN.
Ben
et
oui.
Que ça perdurait, que ce chromosome du gigantisme passe de génération en génération. Donc, Neil Gemmell, lui, son hypothèse était que les gens, en fait, ce qu'ils voient, ce sont peut-être, parce que le monstre du Loch Ness, généralement, parce que à partir d'une photo qui a été prise en 1934, les gens ont commencé à s'imaginer un animal qui ressemblait à un plésiosaure préhistorique avec un long cou.
Oui.
Mais dans l'ensemble, quand les gens parlaient du monstre du Loch Ness, avant cette fameuse photographie que l'on sait est un trucage aujourd'hui, c'était une espèce de coup de dinosaure qu'on avait monté sur un petit sous-marin jouet qu'on avait mis dans le Loch Ness pour le prendre en photo.
Et là là!
Parce que l'auteur de la photo voulait se venger des éditeurs du Daily Mail. Il y a toute une histoire un peu derrière ça, mais néanmoins... Quand on regarde l'ensemble des témoignages sur le monstre du Loch Ness, les gens parlent davantage d'une espèce de grand serpent qu'on verrait dans le Loch Ness. Hein, et ils décrivent une espèce de vague qui peut remonter à contre-courant et parfois une espèce de bosse qui semble sortir de l'eau. À partir de ces témoignages qui sont plus vraisemblables que le monstre qui sort son cou de l'eau là, à la plésiosaure, Neil Gemmell avait émis l'hypothèse que, sans parler d'individus souffrant de gigantisme, il est possible que des gens aient pu voir, par exemple, deux ou trois anguilles se suivant l'une derrière l'autre et provoquant une espèce de remous en zigzag à la surface du lac qui aurait pu laisser croire à la présence d'un animal plus grand qui était sous l'eau. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'il a émise. Mais on en revient à notre histoire, hein, le monstre qui ne veut pas mourir. Donc,
ouais.
Neil Gemmell annonce en grande pompe, voilà, il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness, il y a simplement beaucoup d'anguilles. Mais comme dans n'importe quelle recherche de ce type-là, il y a toujours un pourcentage d'ADN qu'on dit de l'ADN non identifié. On en a nous-mêmes hein, dans nos chromosomes.
Ah, okay.
On a des chaînes de chromosomes qui sont résiduelles, mais on ne sait pas à quoi ils servent. On pense que ça vient de nos ancêtres préhistoriques puis qui n'ont plus aucune utilité. Là. Mais donc, Neil Gaiman dit, ben voilà, j'ai identifié des espèces, etc. Et là, il y a un faible pourcentage, négligeable, un 5 % d'échantillonnage pour lesquels il n'y a pas d'explication. Mais n'importe quel scientifique qui travaille dans le domaine de la génétique te dirait c'est tout à fait normal. C'est de l'ADN qui est tellement dégradé qu'on n'arrive pas à l'identifier parce qu'il était dégradé pour toutes sortes de raisons. Il est dégradé, donc on n'arrive pas à l'associer dans des lits de taxinomie à des espèces connues.
Ah, oh, mais ça ouvre la porte, là. C'est un doute raisonnable, Christian.
Ah,
oui,
mais voilà, si toi, t'as un hôtel à Drumnadrochit,
oui.
Tu vas vite te référer à ce petit échantillonnage de non-identifiés pour dire c'est peut-être là. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc, on s'est mis des gens, ce sont mis à critiquer, puis souvent des gens qui avaient un peu un agenda, soit un agenda économique ou un agenda parce qu'ils écrivent des livres sur le monstre du Loch Ness,
ou
ils dirigent l'association de recherche du monstre du Loch Ness, fait qu'ils vont perdre tous leurs membres si finalement il n'y a pas de monstre. Donc les gens ont pointé du doigt ce faible pourcentage qui est des travaux de Neil Gaiman. Alors là, Neil Gaiman qui a pris ça un peu, disons, personnel, s'est dit bon, et l'une des choses qu'on disait à Neil Gaiman, c'est qu'il n'a pas pris suffisamment d'échantillons. Hein? 500 échantillons à peu près sur toute la surface du lac, mais seulement 250 dans la baie d'Urquhart. Donc, pour eux, c'est insuffisant. Alors que pour la communauté, ça l'est amplement. Mais bon, pour les gens, quand tu as des intérêts, quand ça touche ta poche, tu trouves vite des raisons pour critiquer.
Ben oui.
Alors, Neil Gaiman a annoncé il y a quelques jours qu'il allait mener une nouvelle opération au Loch Ness. Et cette fois, il compte prendre plus de 2000 échantillons, donc de quoi faire taire toutes les critiques. Et évidemment, il ne le fait pas, il précise bien, comme scientifique, il ne veut pas être le scientifique qui court après le monstre du Loch Ness, mais il veut d'abord, répondre à la question de ses détracteurs, on le comprend, mais en même temps, en menant une opération plus étendue à la surface du Loch Ness, ça permettrait de mieux identifier les espèces et peut-être de déterminer davantage le pourcentage d'occupation de ces espèces. C'est beau de dire qu'il y a de grosses colonies d'anguilles dans le Loch Ness, mais elles représentent quoi exactement cette colonie d'anguilles? À combien est-ce qu'on est capable, à partir de l'ADN environnemental, d'évaluer le nombre d'individus, par exemple, pour un espace donné dans le Loch Ness au mètre cube, etc. Donc, c'est un peu pour mener cette recherche de façon plus générale sur la faune du Loch Ness, mais en menant cette opération, Neil Gaiman compte bien pouvoir répondre à ses détracteurs en prenant suffisamment d'échantillons pour pouvoir faire taire toute conclusion qui irait vers l'idée qu'il existe encore un monstre dans le Loch Ness. Mais évidemment, ça ne fera pas taire. C'est sûr qu'après que Neil Gaiman va avoir annoncé ses résultats, même si ses résultats sont convaincants à 100% pour la communauté scientifique, bien, on comprend que pour des raisons économiques, des raisons touristiques, il y aura toujours des gens qui vont dire « Ouais, mais les scientifiques, là, ils ne l'ont pas vu » ou « Les scientifiques ne sont pas équipés pour ça » ou « Le monstre du Loch Ness, pour une raison X ou Y, échappe à la méthode scientifique. » Tu vois,
ouais.
On va toujours trouver le moyen pour maintenir ça. Mais c'est une histoire qui est à suivre, fort intéressante. J'ai bien hâte de voir comment les cryptozoologues, donc les amateurs de monstres, vont réagir devant cette nouvelle étude. Et ça revient à cette question que se posait le prince William lorsqu'il a questionné est-ce qu'avec l'ADN environnemental, on pourrait identifier ou non le monstre du Loch Ness? Et cette réponse, le scientifique, oui, il y a un scientifique néo-zélandais qui l'a fait. Ben là, la réponse, c'est il y a un scientifique néo-zélandais qui l'a fait et qui va le refaire également pour pouvoir faire taire les rumeurs qui continuent de circuler autour de la présence de cet animal mystérieux.
Et même si on arrivait à dire Nessie, là, il y a 0% de chance. Là.
Oui.
Je pense pas que ça va vider du jour au lendemain non plus. C'est rendu un mythe plus grand que le fait en tant que tel. Je pense.
C'est passé dans la culture populaire, le monstre du Loch Ness. Tu sais, je veux dire, même si... Je pense que les gens, il y a quand même, quand on est à Drumnadrochit ou à Inverness, tout ça, quand on parle du monstre du Loch Ness, c'est un peu comme, les gens qui font des journées ou des week-ends médiévaux à Québec chaque année,
ou
etc. Oui,
ouais.
On n'est plus à cette époque-là, mais pour le temps d'un week-end, on aime jouer le jeu qu'on est au 8e, 9e siècle, au 10e siècle. Et je pense que c'est un peu la même chose. Quand les gens, on regarde les gens qui sont là, mais on comprend aussi qu'il y a des gens qui ont des commerces qui tournent autour du monstre du Loch Ness. Mais les gens aiment jouer l'idée, là, pendant qu'on est là, sur les bords du Loch Ness, même si on se dit que le monstre n'existe pas, il y a quelque part en nous une espèce de fantasme d'enfant qui dit, mais s'il était quand même là.
Et si c'est moi qui le voyais.
Et si je le voyais. S'il était là, Nessie. C'est un peu comme une part de rêve de croire à une espèce de dimension surnaturelle et fantastique. Et ça, je trouve ça très amusant. Moi, j'ai très apprécié. Je n'ai jamais cru au monstre du Loch Ness. J'abondais plutôt vers des hypothèses comme les esturgeons de la Baltique, tout ça. Mais je me suis plu à marcher le long du Loch Ness et puis à regarder les eaux puis de me dire, et s'il apparaissait devant moi, là, si je le voyais. Là, là,
et t'en as apporté une partie avec toi?
Ah oui, bien sûr, mon petit monstre, mon petit toutou avec son béret. son béret.
C'est trop
mais,
cute.
C'est ça. Mais c'est très amusant. Puis, ça, comme tu dis, ça fait partie de la culture populaire. Et je pense pas que demain matin, ce mythe-là va disparaître. En même temps, ce qui est un peu triste, c'est qu'au-delà du mythe populaire, il y a une espèce de position que tiennent certains individus où ils décrivent un peu, avec un certain mépris, la science, comme si la science n'était pas à la hauteur. Hein. On le voit, par exemple, dans des histoires de Bigfoot ou Sasquatch. Il y a une telle communauté de gens qui croient à ces histoires-là que quand tu... Je me suis frotté à ces gens-là quand je leur disais, ouais, mais là, il y a quand même telle ou telle problématique ou c'est les scientifiques qui ont tort, les scientifiques ne savent pas ce qu'ils font. Moi, qui chasse le Bigfoot, je le sais, c'est vrai, puis les scientifiques ont tort.
Faut donner des preuves tangibles ou les preuves qu'ils voudraient avoir devant les yeux. Il y a
ça
aussi,
puis,
c'est pas votre vérité, c'est la vérité.
Oui, puis c'est ça, les scientifiques, eux, tu sais, on parle par exemple du Bigfoot, j'en ai souvent parlé, hein, il y a quelques années, il y a une étude, Brian Sykes, qui est décédé maintenant, qui dirigeait le département de recherche en génétique de l'Université de Cambridge, avait demandé aux gens qui disaient avoir des échantillons de Bigfoot, Yeti et tout le reste. D'ailleurs, dans le petit entrevue, le petit extrait qu'on a fait entendre également, la scientifique répond au prince William en disant « On a aussi également utilisé les mêmes méthodes pour essayer de traquer le Yeti et le Bigfoot.
Oui. »
Et elle fait référence justement à ça, aux travaux de Brian Sykes, qui avait demandé aux gens qui disaient posséder des échantillons du Bigfoot ou du Yeti, hein, c'était ou des poils, des excréments ou n'importe quoi. Il avait demandé, ces gens-là avaient toujours un discours très méprisant pour la science, en disant, nous, on a des échantillons, on a des preuves, mais les scientifiques ne nous écoutent pas, ils nous prennent pour des lunatiques, ou etc. Et Brian Sykes a décidé de les prendre au sérieux en disant, bien, écoutez, si vous dites que vous avez ces échantillons-là, moi, là, je suis prêt à mettre mon laboratoire à votre disposition.
Je vous invite autour de la table, là,
exactement.
À discuter.
Et donc, à travers le... Il a utilisé comme plateforme de ralliement le musée de zoologie de Bruxelles, qui avait été fondé par un des grands cryptozoologues, en fait le père de la cryptozoologie, qui est Bernard Ruvelmans. D'ailleurs, les collections Bernard Ruvelmans sont conservées au musée de Bruxelles. Et donc, il dit, ben voilà, envoyez vos échantillons, puis on va les analyser. Et sur les échantillons, il y en a reçu à peu près 60, c'était 57 ou 59, quelque chose comme ça. La moitié d'entre eux, très rapidement, au premier coup d'œil, il a pu déterminer que certains étaient des fibres synthétiques ou des trucs comme ça, ou il les a immédiatement identifiés comme étant soit des poils d'un animal bien connu, ou bon. Et à partir de là, où certains étaient trop dégradés, et à partir de là, il y en avait une trentaine qui étaient acceptables pour une analyse ADN. Et il raconte, c'est assez étonnant ce qu'il raconte dans son... Il a écrit un ouvrage sur le sujet. Il a failli passer donc ses analyses ADN qui se sont révélées être tout sauf des poils d'un hominidé inconnu. Donc, il a trouvé là-dedans des poils de vache, de bœuf, d'ours, des excréments de raton laveur, tout ce que tu voudras.
Beaucoup d'efforts.
Ouais, mais il n'a rien trouvé. Et il racontait, et ça, je pense que ça amène une réflexion. Hein. Par exemple, un témoin, hein, il raconte cette anecdote-là, il dit, bon, un témoin dit qu'il a poursuivi un Bigfoot et que là, le Bigfoot a enjambé une clôture sur laquelle il y avait des barbelés, et l'animal serait resté un peu accroché sur le bord du barbelé, puis bon, il a laissé un morceau de chair avec du poil. Et le témoin, donc, dit, je suis arrivé aux côtés de la clôture, j'ai ramassé le morceau de poil avec le petit morceau de chair. Le témoin raconte une histoire vécue où il a été le témoin oculaire de ça. Il récupère l'échantillon, mais ce n'est pas un échantillon qu'il découvre après coup, comme ça, dans le milieu de la forêt. Il voit, hein, il dit qu'il a vu le Sasquatch ou le Bigfoot passer, enjamber la clôture et de laisser l'échantillon. Or, l'échantillon s'est révélé être celui d'une vache. Hein, c'est de la peau de vache.
OK.
Et Brian Sykes raconte, il dit, quand je suis allé voir le témoin, j'ai dit, il a pris la peine hein, d'aller rencontrer les témoins puis leur dire, ben, désolé, voici votre échantillon. Puis votre échantillon, c'est du poil d'ours ou c'est ci ou c'est ça. Et il raconte l'anecdote, il dit, je présente cet échantillon au témoin. Puis je lui dis, ben voilà, c'est un morceau de, c'est des poils de vache. Et le témoin, comme placé, face à son mensonge qui avait été révélé par l'analyse ADN, a continué de maintenir le mensonge. Tu comprends? Il a réfuté. Il dit non, t'as tort, c'est pas vrai, je l'ai vu le Bigfoot. Puis là, il continuait de raconter son histoire un peu fantaisiste, même si l'échantillon, l'analyse ADN démontrait qu'il avait tort, que ce qu'il racontait, c'était de la foutaise. Et ça c'est un peu inquiétant parce qu'on le voit beaucoup dans l'univers du paranormal. Des gens tiennent des discours, et lorsque, éventuellement, l'histoire est déboulonnée, démontée, les gens vont continuer de maintenir le mensonge. On se met la tête dans le sable, on accuse la communauté scientifique. Le mot facile, hein, c'est de dire, ah oui, mais là, ces gens-là, c'est des debunkers. Ou, tu comprends, on les diabolise. Hein? Le scientifique,
ils sont
sceptiques. C'est des sceptiques, ça. Leur travail, c'est de démontrer que c'est pas vrai. Tiens, on essaie avec un certain mépris, on les diabolise pour pas que les gens les prennent au sérieux. Mais dans le fond, là, Brian Sykes, là, il est décédé, là, mais il s'en foutait, lui, que le Bigfoot existe ou non. Tu sais, tu comprends-tu?
Ouais.
Il avait pas un mandat, lui, là. S'il existe, le Bigfoot, ben tant mieux. Puis s'il n'existe pas, ben tant pis. Mais il n'y a pas un mandat, lui-là. Il n'est pas membre d'une société de chasseurs de Bigfoot. Là. Il y a un laboratoire de recherche en génétique. Il a appliqué la même méthode qu'on utilise en génétique, qu'on utilise en criminalistique pour déterminer qui est la victime ou qui est le coupable ou qui est un suspect quelconque. Il a utilisé cette même méthode-là. Et cette méthode-là fonctionne très, très bien. On le voit là, chaque semaine dans le domaine de la criminalistique. On retrouve des suspects ou des criminels qui étaient en fuite depuis des années parce que les méthodes de criminalistique c'était pas assez avancé. Puis aujourd'hui, des nouvelles méthodes nous permettent de les cibler davantage. Ça semble fonctionner très, très bien dans d'autres sphères d'activité, mais quand vient le temps d'enquêter sur le Bigfoot, ça marche pas. Puis malheureusement, ces gens-là n'ont que des photos floues à nous présenter. Et comme le disait quelqu'un, hein, une photo floue ne prouve rien si ce n'est la mauvaise qualité du photographe.
J'aime ça.
L'incompétence du photographe, tu sais, c'est la seule chose que ça prouve. C'est que, bon, ben, bref, attendons pour voir ce que la nouvelle recherche menée par Neil Gemmell au Loch Ness va apporter. Mais je pense qu'on peut pas... Je reste pessimiste sur l'idée qu'on arrive avec une transformation, un virage à 180 degrés en nous disant « Ah, il y a un animal inconnu dans le Loch Ness. »
Ben, maintenant que tu as mentionné Bigfoot, je décide de brasser un petit peu ton line-up, Christian.
Oui.
On va faire une pause, mais juste avant, tu as une nouvelle destination voyage, du moins, à m'annoncer concernant le Bigfoot. Et je suis vraiment curieuse d'en apprendre plus.
Tu veux que je te le livre tout de suite?
Après la pause, j'ai quelques minutes d'arrêt à faire. Puis pour le reste de l'émission, je ferai ça. Et si on a le temps pour d'autres points, ça va me faire plaisir.
OK. Donc, j'y vais tout de suite, puis on fera la pause après. Donc,
super. C'est où ça?
C'est une analyse, une méta-analyse qui a été faite par une organisation américaine qui s'appelle le Bigfoot Field Research Organization. Et ça prouve que ces gens-là n'ont pas grand-chose à faire les week-ends.
Ah!
Et là, ils ont donc colligé 1000 observations. Ils les ont placées en zone locale et ils ont établi les 15 états où une randonnée en forêt t'offre le plus de chances de te retrouver nez à nez avec Bigfoot. Alors, je te les donne. Hein, quels sont ces états propices à une rencontre avec le Bigfoot? Le premier état, c'est l'état de Washington.
OK.
Donc, on a 13% de chance, semble-t-il, de tomber nez à nez avec Bigfoot.
Avec la communauté, parce que là, s'il y a plusieurs états, ça veut dire qu'il y en a plus qu'un, ou ils se promènent extrêmement vite?
Ouais, on en a plusieurs. Okay. Ce sont des petites communautés, là.
D'accord.
Donc, l'état de Washington, puis encore une fois, je ne sais pas si c'est une bonne chose de se retrouver nez à nez avec Bigfoot, en supposant qu'il existe. Donc, c'est Washington. Ensuite, le deuxième, c'est la Californie. Le troisième est assez surprenant, hein? La Floride, parce qu'en Floride, ils ont aussi une créature mystérieuse qui, localement, on l'appelle plutôt le skunk ape, hein? le singe moufette, parce que, bon, c'est un... Oui, le skunk ape.
Okay.
Parce que le singe moufette, parce que, bon, la description générale est la même chose qu'un Bigfoot, là, mais les gens, ils disent qu'ils vivent un peu dans les marécages, tout ça, et qu'il dégage une odeur pestilentielle, d'où l'idée de singe moufette. Donc, la Floride. Et ensuite, on retrouve des États qui sont assez limitrophes avec la Californie et le nord du pays, là, des régions très boisées comme l'Ohio, l'Illinois, l'Oregon. Assez étonnant, le Texas. Ça, j'étais un peu surpris
par
le Texas. Il peut pas se cacher beaucoup, là. Il veut dire, il se cache en arrière des cactus ciels.
Ouais, c'est en dessous d'une roche, je sais pas trop.
Au soleil, le Michigan, le Missouri, la Géorgie, le Colorado, la Pennsylvanie. Hein, c'est vrai que dans toute la région des montagnes, qui vont les Green Mountains et les White Mountains, là, qui descendent tout le long de la côte, là, il y a beaucoup de... Et là, ça inclut la Pennsylvanie, l'État de New York. On le retrouve également. C'est juste l'État suivant. Donc, dans l'État de New York, on a 3,7% de chances de se retrouver nez à nez avec Bigfoot. Le Kentucky et l'Oklahoma, qui vient terminer cette liste des 15 États les plus susceptibles de te mettre dans une trajectoire de rencontre avec le Bigfoot.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur d'aller se promener en forêt à cause de ça? Y a-t-il une peur, pas satanique, mais une peur Bigfoot est encore existante?
Je ne sais pas. J'en ai pas rencontré. J'ai pas rencontré d'adeptes du plein air qui m'ont dit je n'y vais pas parce que j'ai peur du Bigfoot. Au Canada, il faut savoir que, bien sûr, c'est la Colombie-Britannique qui tient le haut du pavé avec au niveau des observations du fameux Sasquatch.
Ah, c'est chez nous aussi. Okay.
Oui, parce que il n'est pas dans la liste. Mais si je devais te mentionner des provinces canadiennes où il y a eu beaucoup d'observations, ben la province numéro un, c'est la Colombie-Britannique. Britannique en particulier. Et la deuxième, c'est l'Alberta. Mais on reste quand même dans cette zone frontière, hein, parce que la chaîne des montagnes rocheuses, elle est un peu sur la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique.
Ben oui, puis il peut
et
se mettre un gros pied au Canada puis un gros pied aux États-Unis aussi, s'il veut, là.
Oui, et on a des régions qui sont très, très bucoliques et des endroits quasi très sauvages. Hein. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller dans le parc national de Banff. Là.
Pas encore, mais je sais que c'est un incontournable.
C'est des endroits qui sont difficiles. Tu sais, c'est tellement boisé, c'est tellement sauvage que, bon... On ne serait pas étonné qu'un Bigfoot puisse, une petite communauté de Bigfoot, puisse trouver refuge dans ces montagnes-là. Mais bon, même si je n'y crois pas, j'aime bien me plaire à jouer le jeu un peu. Et donc, la Colombie-Britannique et l'Alberta sont des provinces où on enregistre le plus grand nombre d'observations de Bigfoot.
Commentaire de Joey par texto. Finalement, il est un peu partout. Oui, il peut être un peu partout.
Oui, il est un peu partout. Il y a d'ailleurs une étude qui a été menée. Je sais que ça va être... J'arrive un peu avec le coït interrompu, là, mais l'an passé, il y a eu une étude qui a été menée par des biologistes américains qui ont remarqué également que il y avait, là où il y avait beaucoup de Bigfoot, il y avait aussi beaucoup d'ours.
Ah!
Tirez-en les conclusions que vous voulez.
Faites-vous votre propre opinion.
Exactement. Vous êtes à Radio X, alors faites-vous votre propre opinion. Mais là où il y a des Sasquatch, il y a aussi généralement beaucoup d'ours, et notamment des ours bruns et des grizzlies.
Et on s'arrête quelques minutes.
Connus pour se... Les deux espèces qui sont connues pour se lever souvent sur leurs pattes arrière pour aller chercher des proies dans des branches ou cueillir des fruits sur des branches basses, sur des arbres.
Et ça fait des belles photos floues de loin quand tu vois un ours sur deux pattes essayer de cueillir des baies. C'est très possible que ce soit ça que vous ayez vu.
Et j'ai, une fois, lors d'un tournage en Colombie-Britannique, je me suis retrouvé presque nez à nez avec un grizzly. J'ai pris une photo, un flou, je te dis. Un flou, je tenais l'appareil derrière moi, là. Tu sais, je prenais des photos en courant. Fait que la photo est restée floue.
Wow! Merci, Christian. On s'arrête quelques minutes et au retour, tu vas nous parler peut-être de Martin Luther King, de Robert Kennedy aussi?
Et de JFK. Oui, okay. Absolument.
Restez là.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission des Radio X-Files et Christian Moilir, John F. Kennedy, Robert Kennedy et Martin Luther King sur la même feuille. J'ai l'impression que tu vas me dire que les trois, c'est une inside job. Vrai ou faux? On est dans la théorie du complot ce soir, donc je me permets.
Oui, en fait, c'est ce que certains croient. Mais bon, pourquoi je te parle de ça? Probablement, tu as vu passer la nouvelle. Il y a deux semaines, le président Trump a signé un décret demandant la publication de tous les documents qui sont liés à l'assassinat de JFK, de son frère Robert Kennedy en 1968 et de Martin Luther King, lui aussi assassiné en 1968. Ces histoires, ce sont trois assassinats en particulier qui ont énormément marqué l'opinion publique. Ce sont des histoires qui ont glissé rapidement dans les théories du complot. Dans les années 70, ces trois cas-là, une a fait l'objet d'une enquête spéciale fédérale, l'assassinat de JFK, ce qu'on appelait la commission Warren, du nom de Earl Warren, qui était un des juges à la Cour suprême des États-Unis, qui a été publié en septembre 1964 et qui concluait que l'assassinat de JFK n'était pas le résultat d'un complot, mais l'œuvre d'un tueur solitaire qui est Lee Harvey Oswald, qui avait abattu le président depuis le dépôt de livres situé au-dessus du Daily Plaza, là, au cinquième étage, au sixième plancher, là, si on inclut le rez-de-chaussée, qui avait fait feu sur la limousine. Évidemment, ça n'a pas convaincu tout le monde pour mille raisons. Et ensuite, il y a eu les assassinats de Robert Kennedy, on est le 5 juin 1968, et Martin Luther King, c'était le 4 avril 1968. Ces deux autres assassinats, Robert Kennedy et Martin Luther King, ont aussi fait l'objet d'une investigation, pas une commission d'enquête comme celle menée sur JFK, là, qui était une enquête très spécifique, mais au milieu des années 70, il y a eu une chambre spéciale au Congrès américain pour replonger ou rouvrir les dossiers sur certains assassinats, et Robert Kennedy, Martin Luther King, ainsi que JFK faisaient partie de ces assassinats. Et on avait conclu, lors de cette chambre spéciale du Congrès qui s'est tenue de 1976 à 1979, on avait conclu que les assassinats étaient l'œuvre de tueurs solitaires. Donc là, évidemment, pour les théoriciens du complot, c'est JFK solitaire, Robert Kennedy solitaire et Martin Luther King solitaire. On dirait que c'est un peu une ritournelle, puis la seule réponse des autorités, c'est toujours des solitaires, alors qu'on a l'impression que ce sont des théories du complot. Bon, on va peut-être le savoir, il faut quand même mentionner qu'avec le décret signé par le président Trump, j'ai l'impression, et là c'est une opinion personnelle, mais j'ai l'impression que Trump a signé ce décret-là essentiellement pour plaire à une certaine communauté de son électorat qui sont très, très portés vers les théories du complot. C'est vrai également qu'il s'est vanté un peu, le président Trump, en disant « J'ai déjà rendu public les dossiers en 2017 sur JFK, une grande partie des dossiers sur JFK en 2017. » Mais ça, c'était un peu s'attribuer quelque chose qui était tout à fait gratuit, là, parce que, en fait, c'est le président Clinton qui avait décidé que les dossiers sur JFK oui. allaient être publiés en 2017.
Tu l'as déjà dit dans une précédente chronique, voilà, que c'est, dans l'ordre des choses, c'était logiquement bon, cette année-là. Bon.
Et dans ce cas-là, dans le cas de JFK, il y a moins de 1 % des dossiers qui sont demeurés confidentiels. Puis je pense que les raisons pour lesquelles ils sont gardés confidentiels... Mais c'est vrai que si on garde quelque chose confidentiel, ça soulève la raison. S'ils n'ont rien à cacher, pourquoi ils ne veulent pas les rendre publics? Ben, il faut savoir que dans ces documents-là, il y a plein d'informations, notamment sur les rouages, comment fonctionnent les services de renseignement, qui a donné de l'information à qui. Il y a plein de gens qui sont impliqués. Ce n'est pas simplement un document où il dit « JFK a été abattu ». Tu comprends? C'est plus complexe que ça, mm-hmm. ces documents-là. Et on comprend que les services de renseignement n'ont pas envie de savoir que tel agent travaillait pour la Pravda en Union soviétique, ou tel agent de la Pravda ou journaliste de la Pravda était également un agent double qui fournissait de l'information à la NSA ou la CIA. Il y a mille et une raisons pourquoi on veut garder ces documents-là secrets. Ce qui est intéressant ici, c'est j'ai bien hâte de voir ce qui va ressortir pour Robert Kennedy et Martin Luther King, parce que dans les deux cas, la commission, dans les années 70, avait conclu à des solitaires.
Ouais.
Dans le cas de Martin Luther King et Robert Kennedy, il y a quand même beaucoup de théories du complot qui ont circulé, qui n'ont jamais été démontrées, mais que moi, je trouve quand même assez amusantes. Hein. Par exemple...
Est-ce que c'est tiré tant que ça par les cheveux?
J'ai tendance à dire que oui. Okay. Quand on connaît bien les faits, mais c'est quand même des bonnes histoires. Okay. Quand même. Moi, comme par exemple, j'aime beaucoup l'histoire. Robert Kennedy, c'est peut-être ma favorite. Parce qu'il faut savoir que Robert Kennedy, la façon dont ça se passe, mais je peux comprendre que ça alimente les théories du complot. Dans le cas de Robert Kennedy, on est le 5 juin 1968, on est à l'hôtel Ambassadeur, il vient d'être nommé pour représenter le parti démocrate à la prochaine élection présidentielle. Donc, il fait son discours, la salle est bondée, les gens sont en liesse, sont contents. Bon, mais c'est sûr que Robert Kennedy s'est fait beaucoup d'ennemis, hein, et principalement à l'époque où il était la tournée générale, ce qui représente ici au Canada le ministre fédéral de la justice. Là. Donc, il avait été nommé par son frère John Kennedy pour être la tournée générale. Et c'est un peu, il a fait un peu une arnaque, ben pas une arnaque, mais un piège. Il a tendu un peu un piège au monde interlope, parce que le monde interlope, et en particulier les camionneurs, le syndicat des camionneurs, les Teamsters, avaient un peu favorisé l'élection de John Kennedy. Et quand John Kennedy est arrivé au pouvoir, il nomme son frère Robert Kennedy à tournée générale, et Robert Kennedy se lance dans une chasse contre la mafia. La même mafia qui avait un peu aidé son frère à gagner les élections.
Ouais, tu sais, c'est tiré dans sa barque
électorale. Ouais, c'est un coup de jarnac, comme on dit. Mais enfin, bon, Robert Kennedy, là, ce qui est intéressant de cette histoire-là, dans les théories du complot, je trouve que c'est une théorie du complot qui est mieux ficelée. Hein? Et pourquoi elle est mieux ficelée? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments accrocheurs. Donc, Robert Kennedy fait son discours, et là, il n'est pas prévu qu'il sorte de l'hôtel Ambassadeur en passant par les cuisines. Mais les agents du Secret Service qui sont là, qui le protègent, comme ils voient que la foule est très importante en avant, on dit à Robert Kennedy, on va vous faire sortir par l'arrière, par les cuisines. Et quand il traverse les cuisines, alors qu'il il serre quelques mains, et alors qu'il s'approche de la sortie derrière, en passant par les cuisines, un homme bondit devant lui avec une arme au poing. Cet homme, c'est Siran, et il décharge son pistolet sur Robert Kennedy. Et deux des tirs sont mortels. Et Siran est immédiatement immobilisé. C'est un individu qui est né en Israël, à Jérusalem. Donc, on dit souvent que c'est un ressortissant israélien. Mais en réalité, s'il est né à Jérusalem, il est né de parents qui sont palestiniens, qui sont originaires de la Cisjordanie. Et Siran détestait Israël. Or, il vouait une haine viscérale à Robert Kennedy, parce que Robert Kennedy, un an plus tôt, hein, qui était le 5 juin 1967, c'était la guerre des six jours en Israël qui opposait l'Israël à ses voisins arabes. Et Robert Kennedy avait montré son appui à Israël. Mmh. Et Siran écrivait, il y avait des notes, on a retrouvé des notes chez lui où il disait « Robert Kennedy doit mourir, je déteste Robert Kennedy ». Il vouait, là, il avait une haine viscérale, une rancœur contre Robert Kennedy. Or, il abat Robert Kennedy le 5 juin 1968, la date anniversaire, un an après la guerre des six jours.
Il y a une symbolique.
Mais Siran va raconter une histoire incroyable. Il dit à un moment donné, tu sais, on a déjà parlé du projet MK Ultra, puis tout ça, puis c'est pour ça que je trouve que cette histoire-là, elle est amusante, même si elle ne tient pas vraiment la route quand on regarde tous les faits. Mais Siran va raconter, va dire, oui, c'est moi qui ai tiré sur Robert Kennedy, je le reconnais. Mais il ajoute, il dit, mais je ne sais pas comment je suis arrivé là. Et là, il raconte qu'il savait que le Robert Kennedy devait faire un discours à l'ambassadeur Hôtel, donc il s'est rendu là. Avait-il vraiment l'intention de l'abattre? Il n'en est pas certain. Il est allé aux cuisines prendre un café. Il a été accosté par une femme qui avait une robe à pois, et cette femme l'a emmené dans un salon. Elle était très séduisante, de dire Siran. Et là, il dit, hey, j'ai pris un café, et là, tout d'un coup, j'ai perdu la carte. Et je me réveille, je suis étendu au sol, des agents du Secret Service m'ont immobilisé, et là, j'ai mon arme de poing, puis je tire sur Robert Kennedy. Alors, il dit, en fait, c'est comme si j'étais comme hypnotisé. Et là, tu comprends que si tu fais dans les théories du complot, c'est facile de dire, ben oui, mais la CIA avait mis de l'avant le fameux programme MKUltra. Et l'un des objectifs du programme MKUltra était de voir si on pouvait pas créer des tueurs par procuration, ce qu'on appelle the Manchurian Candidate ou le candidat de Manchurie, un individu qu'on fait de lui à son insu un assassin. On lui donne une commande post-hypnotique et lorsqu'il entend des mots, hein, mettons avion, as de pique et je sais pas moi, Floride, ça déclenche chez lui un mécanisme et là il devient un tueur sans même s'en rendre compte. Et là, quand Siran raconte ça devant les tribunaux, il raconte ça aux journalistes, c'était une histoire intéressante, on va trouver dans des photographies de la soirée où se trouvait Robert Kennedy, effectivement, dans la salle, il y avait une femme avec une robe à poids. Est-ce la même femme qui a tenté de séduire Siran?
Oh, encore la faute des femmes.
Ah oui, c'est une histoire incroyable. Écoute, on pourrait faire une émission entière là-dessus, hein, parce qu'il y a aussi le fait que Robert Kennedy a été abattu d'une balle derrière l'oreille. Hein, ça, c'est le rapport du médecin légiste. Le médecin légiste, un type qui s'appelait Thomas Nagoshi, c'était le légiste des vedettes. Hein. Il a fait l'autopsie de Marilyn Monroe, l'autopsie de Natalie Wood. Et c'est un individu très... c'est le médecin légiste du comté de Los Angeles, donc le médecin légiste des vedettes. Et il est catégorique. La balle que tue Robert Kennedy a été tirée derrière l'oreille. Or, les gens qui accompagnaient Robert Kennedy disent, mais Siran n'a jamais été derrière Robert Kennedy. Il était devant et il n'a jamais été à plus de 2 mètres de distance de Robert Kennedy. Donc, la balle qui a atteint Robert Kennedy derrière l'oreille, Thomas Nagoshi catégorique, c'est une balle tirée de derrière et une balle tirée à bout portant. Alors évidemment, on se dit, est-ce que Siran n'a pas été un individu pour détourner l'attention? Pendant qu'il tirait face à Robert Kennedy, quelqu'un derrière Robert Kennedy, le véritable tueur, aurait abattu Robert Kennedy en lui tirant une balle derrière l'oreille.
On attendra la déclassification des documents, peut-être, pour continuer à spéculer à ce sujet, mon cher Christian. C'est tout le temps que je suis en train de les tirer. Je sais, c'est fascinant.
Une très, très bonne histoire. Mais écoute, on se reparle la semaine prochaine avec nos énigmes de l'histoire, mais je voulais absolument te parler de ça parce que j'adore cette histoire-là.
Avec raison, c'est fascinant. Je te souhaite un excellent week-end. On se revoit lundi prochain pour Suspect X et prudence sur la route à nos auditeurs, peu importe où ils sont dans la grande région de Québec. On dit que par endroit, la visibilité, oui, peut être nulle. Donc, bonne fin de soirée, Christian. Je te remercie beaucoup pour ce soir.
Ça marche. Toi aussi. Bye-bye.
Bye.